Nom de Dieu, les cons, ils ont osé dépoiler Frida Kahlo. Pardon aux oreilles chastes pour cet abus de langage, mais ce sont les premiers mots qui me sont venus à l'esprit quand j'ai découvert cet été qu'une marque de cosmétiques avait choisi Frida Kahlo pour égérie. Jusque-là, pourquoi pas. Sauf que le visage de l'artiste a été largement photoshopé, son célèbre monosourcil ratiboisé, et le tout était accompagné du slogan « Ne vous excusez jamais de qui vous êtes ». Sublime et douloureuse allégorie du féminisme washing, la récupération marketing du combat pour l'égalité par des marques pas franchement exemplaires. C'est pas la première fois que Frida Kahlo subit ce type d'outrage l'an dernier. C'est Mattel qui avait tenté de nous refourguer une Barbie Frida blanche, dénutrie, et là aussi passée chez Pile Minute. Un peu comme Che Guevara s'est retrouvé sur des dessous de table ou sur des rideaux de douche, Simone de Beauvoir est elle aussi mise à toutes les sauces. Mug, t-shirt, badge, un toilettage et une image marketée qui interroge le féminisme. Doit-il être pop, coloré, télégénique pour être représenté? Cette nouvelle façon de militer comporte peut-être un risque. L'édulcoration du combat, le féminisme. Est-il toujours un gros mot ou est-il devenu la vache à lait du capitalisme? Votre avis, vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous sur Twitter, hashtag débat de midi, ou sur le site de France Inter à la page Le Débat de Midi. On interroge le féminisme version 2019 jusqu'à 13h.
Le Débat du Midi. Nadia Dam sur France Inter.
Et en direct avec moi dans le studio pour en débattre, bonjour Alice Pfeiffer.
Bonjour.
Vous êtes journaliste mode aux Un Rock, dont je recommande chaudement, mais alors très chaudement, le dernier numéro sexe, comme chaque été. Vous êtes également professeur à l'Institut français de la mode. En deux mots, le féminisme, c'est le nouveau noir, comme on dit dans les rédactions des magazines féminins. C'est la mode, c'est à la mode.
Ah oui, c'est absolument à la mode, et c'est à la mode de façon complètement éhontée. C'est-à-dire qu'on voit vous parliez de Frida Kahlo. Moi, je me rappelle de cette publicité récemment de jean qui est sortie. Il y a marqué liberté, égalité, beau fessier. Bon,
c'est bien parce qu'ils ont bien compris le concept du féminisme. Hein.
Mais moi, je me souviens, j'ai fait des études de gender studies il y a 10 ans. Personne ne savait ce que des études de genre, ouais. Et personne ne savait ce que c'était à l'époque, mais il y avait un terme qu'on utilisait beaucoup à l'époque qui s'appelait post-féminisme. Ça veut dire post, ça veut pas dire que après, ça veut aussi dire en réaction à. Et donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est la récupération de vieux symboles, de slogans, de codes féministes à but purement mercantile. Et quand c'est encore une fois, est-ce que la mode a le droit aujourd'hui dans l'ère capitaliste où on est de travailler avec le capitalisme de façon différente? Est-ce que on est avec Claire ici qui
oui que je vais présenter dans un instant.
Oui, bien sûr, qui a travaillé avec la mode. Est-ce que moi ma grande question aujourd'hui, c'est qui profite de qui? En fait, est-ce que la marque devient mécène pour un combat et donc s'engage, donne une visibilité? On n'oublie pas que les Black Panther faisaient des levées de fonds dans des grands magasins auprès de grandes familles. Ou est-ce que c'est que, comme vous le disiez, la vache à lait de le nouveau must qui va disparaître dans une saison?
On va essayer d'y répondre, évidemment. À côté de vous, Claire Succo, vous êtes là. Bonjour. Vous êtes la créatrice de la marque Meuf Paris. Alors, Meuf Paris, ce sont des vêtements à message. C'est pas tellement ceux qu'on voit d'habitude. Vous savez, ces t-shirts avec les messages princesse ou attachante. Là, c'est des slogans très cash et engagés. Vous en portez un. Vous pouvez décrire le logo qu'il y a sur votre t-shirt?
Oui. C'est un piment qui peut faire penser à un vagin. Voilà.
Qui fait penser à une vulve, même, très clairement. On vous a beaucoup vu ces derniers temps sur Internet et pas que, à la télévision également, parce que la chanteuse Adèle, très très populaire, notamment auprès des jeunes, porte un sweatshirt anti-sexisme académique qui a été très remarqué, qui vient de chez Meuf Paris. Moi, je vous ai découvert un petit peu avant sur Instagram, notamment avec un t-shirt gros ovaire. Mm-hmm. Est-ce que vous avez un retour de vos clientes? À quoi ça expose aujourd'hui de se promener dans la rue avec un t-shirt sur lequel il y a écrit gros ovaire ou n'importe quel slogan féministe un peu cash? Est-ce que ça entraîne des réactions hostiles ou non?
Alors, je pense que ça dépend vraiment des modèles. Effectivement, celui-ci, ça doit être un des plus cash. Honnêtement, c'est pas celui qui est le plus porté parce que effectivement, faut quand même oser aussi aller dans la rue avec ça et pas avoir peur d'affronter justement le regard des gens. Nous, on essaye quand même pas mal de faire des messages. Enfin, la plupart de nos messages sont quand même plus soft, on va dire. On essaye vraiment de...
Avec de l'humour, il faut le préciser.
C'est ça, voilà. Aussi, on essaye vraiment de faire passer des messages avec humour parce que je pense que c'est ce qui est le plus simple pour les femmes à porter. Je pense notamment à un t-shirt qui est donc sur le dos où il y a des mots mêlés et à l'intérieur, il y a écrit « Plus sympa de jouer aux mots mêlés que de mater des culs ». Là, on dénonce clairement aussi tout ce qui va être harcèlement dans le métro et tout ça, mais en même temps...
Oui, c'est-à-dire que c'est en portant ce genre de t-shirt, on adresse un message politique aux gens qu'on va croiser pendant la journée, et peut-être notamment aux hommes, à ce qu'on appelle les frotteurs, au harcèlement de rue, c'est un message qui leur est adressé.
Oui, et en même temps, c'est moins... En tout cas, nous, on pense que ça marche mieux de pas être agressif en disant, en mettant une insulte ou en mettant un gros fuck ou voilà.
Et c'est tentant, hein, pourtant.
Ouais, c'est tentant. C'est tentant, mais en tout cas, nous, on a décidé d'aller vers cette voie-là. Et je pense que c'est plus facile à porter aussi, du coup, parce qu'on a moins peur. Parce que je pense qu'en tant que femme, porter un t-shirt agressif, ça peut aussi, on peut se dire, ouais, bah attends, je vais peut-être avoir des problèmes.
Ça peut rendre vulnérable.
On s'est dit que ça marcherait mieux comme ça, et c'est vraiment les retours qu'on a. Et ça amène en tout cas des débats aussi au boulot, dans la rue. Voilà, nous, c'est vraiment les retours qu'on a, c'est que ça peut amener beaucoup de débats bienveillants, j'espère.
En duplex, depuis les studios de nos amis France Bleu Occitanie, Sylvie Bourreau nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes professeur de marketing à la Toulouse Business School. Je parlais à l'instant de Frida Kahlo. Comment est-ce que vous expliquez ce retour en force? Il y a un engouement commercial particulier pour Frida Kahlo, là, depuis, je dirais, 6 mois, 1 an?
Oui, tout à fait. Alors, donc, Frida Kahlo, c'est une icône féministe, hein, donc elle... On lui attribue en fait des valeurs, hein, qui sont des qualités, la passion, la liberté, la force, la liberté sexuelle, mais aussi l'émancipation des femmes. C'était une artiste féministe et féminine, mais c'était aussi une jeune femme très jolie. Donc on remarquera quand même qu'on récupère souvent des icônes féministes, mais elles doivent quand même rester jeunes et jolies. Donc c'est un peu le nouveau féminisme, c'est-à-dire que oui, on est libre, on est émancipé, mais on reste féminine et on continue de rester jeune et sexy. Mais bon, il faut savoir quand même que le marketing, c'est un miroir de la société, c'est un miroir déformant, certes, mais c'est le reflet de la moyenne des désirs des consommateurs. C'est un condensé des désirs des consommateurs. Donc, ce sont les consommateurs qui dictent le marketing. Donc, si aujourd'hui, on voit Frida Kahlo, si aujourd'hui, on a des t-shirts féminins, féministes, c'est parce que les consommateurs aiment, achètent ces produits, like ou non une campagne de publicité qui est féministe.
Vous dites Frida Kahlo est jolie, visiblement pas assez, malgré tout, pour les marques, parce qu'elles prennent quand même la peine et le temps de la blanchir, de la mincir, de l'épiler. Donc, ils vont pas non plus jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire de la prendre telle qu'elle. Si le message, c'est acceptez-vous comme vous êtes, c'est un peu étrange, ce double discours.
Alors, on remarquera souvent que toutes les marques qui s'écartent un petit peu des stéréotypes, des standards de la beauté, elles s'en écartent, mais très légèrement. Donc, elle reste quand même, elle a quand même les attributs féminins, c'est-à-dire qu'elle est symétrique, elle a des traits symétriques, elle est jeune, donc elle a la jeunesse, voilà, et elle a quand même des traits très féminins, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Elle est très féminine. Donc ensuite, ils vont effectivement l'aseptiser un petit peu. C'est cette tendance du femvertising. On va prendre des icônes féminines, on va prendre des corps féminins qui s'écartent un petit peu, mais pas trop surtout. Un petit peu ce qu'ont fait certaines marques comme Dove, qui vont prendre par exemple une personne plus âgée, mais si elle est plus âgée, il faut quand même qu'elle soit mince avec des yeux bleus.
Il ne faut pas sortir des clous non plus.
Exactement, ça reste très léger. La dernière campagne de H&M, c'est pareil, qui était en réaction à une campagne précédente qu'ils avaient réalisée. H&M avait quand même utilisé des corps, a été très critiqué quand la marque a utilisé des corps de mannequins virtuels tous identiques et seule la tête changée et la couleur de la peau. On fait dans la diversité. Ils ont ensuite lancé donc une campagne dite féministe et plus inclusive avec des corps et des styles variés, mais après s'être bien sûr fait taper sur les doigts et avoir subi en fait grosses critiques un gros bad buzz sur Internet.
Ouais, on va développer les réactions après ces différentes publicités, parce qu'on n'est pas sectaire. J'accueille également un homme autour de la table qui nous a écouté bien sagement. C'est rare. Bonjour Kevan Javadzadeh, je l'ai bien dit.
Bonjour, vous l'avez bien dit, ouais.
Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information à Paris 8 et spécialiste des études de genre. On l'a dit, le féminisme c'est un coup de pub, mais c'est aussi un angle médiatique. On en fait la preuve aujourd'hui avec cette émission. Il y a de plus en plus de podcasts, de médias ouvertement féministe, le magazine en ligne Chic, Cosette qui est un peu plus ancien. Il y a un cas pratique quand même que je voudrais vous soumettre, c'est le groupe de presse Prisma Média. Media qui a lancé, c'était au printemps dernier, une plateforme 100% numérique, c'est des petites vidéos pop à la brute, vous voyez à quoi ça peut ressembler. C'est un média qui s'appelle Simone, qui s'adresse aux jeunes accros aux réseaux sociaux et qui aborde donc des thématiques féministes. Ce que Prisma, c'est aussi Femme Actuelle, qui n'est pas exactement un brûlot féministe, et c'est aussi Voici, qui commente à longueur de page le physique des femmes. Alice Pfeiffer, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette forme de contradiction qu'il y a dans la presse, assumée, hein, c'est-à-dire qu'un média va pouvoir diffuser dans les mêmes kiosques un journal ouvertement féministe et puis un autre qui ne fait pas tellement avancer la cause des femmes.
Bah, je pense que, disons, je pense que ça revient à l'idée d'une pensée qui est à la mode, mais qui n'est pas plus réfléchie que ça. Il y a une étude qui a été faite qui prouvait que les vieux rêves, disons, les rêves de trentenaire que moi, c'est que moi j'ai été élevée avec des rêves de réussite professionnelle, des rêves capitalistes, et aujourd'hui avec l'omniprésence du porno, avec le marché du travail tel qu'il est actuel, avec la planète, j'ai même pas besoin de vous résumer.
Oui, l'état de la planète.
Avec l'état de la planète, disons, je pense que le féminisme est devenu, et être ce que les Anglais appellent woke, être éveillé consciemment, est devenu une valeur marchande comme une autre. C'est-à-dire que on le voit, si tout le monde, en Amérique, s'est abonné à Lyft plutôt que Uber parce qu'il traitait un petit... Enfin, c'est un vrai truc de tendance.
Une problématique très actuelle.
Donc y a toujours un enrobage autour des marques de valeurs, et là, en l'occurrence, il s'avère qu'il y a
une convergence,
et surtout un peu titanesque entre un message et son opposé absolu.
Allez, on continue à se demander si le féminisme est soluble dans la pub. On attend vos réactions, vos avis, vos questions sur franceinter.fr et Twitter, hashtag le débat de midi. C'est juste après Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life, avec ce merveilleux accent anglais. 20, vous êtes bien sur France Inter. On vient d'écouter Nina Simone remixée par Groove Finder grâce à une programmation musicale signée Thierry Dupin. Let's go, girls.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal.
We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man.
I woke up like this.
Ouais, on s'est fait plaisir avec ce petit zapping musical qui contenait du Angèle et pas du Adèle, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai honte. Et sans morceau de Miley Cyrus dedans, la chanteuse américaine qui a pourtant déclaré un jour, en toute humilité, être l'une des plus grandes féministes du monde, sans blague. Sylvie Borot, est-ce qu'il y a une arrogance de la part des nouvelles figures du féministe que n'avaient pas leurs aînés?
Est-ce qu'elles sont arrogantes? En tout cas, je crois qu'elles sont... En tout cas, elles peuvent être perçues comme superficielles parfois. On voit, par exemple, on affiche en gros sur son t-shirt « Je suis féministe » ou Beyoncé, pendant son concert, écrit en gros « Féminisme ». On ne sait plus trop finalement ce qu'il y a derrière. On le crie très haut et fort, mais on ne sait pas vraiment quel est ce féminisme-là. J'ai l'impression que finalement aujourd'hui, les femmes veulent le pouvoir, l'argent, l'indépendance, la réussite professionnelle, mais on voit toujours que ce féminisme reste très sexy. Ça va être un t-shirt moulant, ça va être... voilà, donc et il faut allier...
Est-ce antinomique le féminisme? Et on va évoquer la figure de Beyoncé dans un instant et on sera pour le coup en plein dedans. Mais est-ce qu'il faut opposer nécessairement le combat politique militant et l'apparence physique?
Bah alors justement, c'est la grande question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, je crois que le nouveau féminisme, c'est ça. C'est-à-dire, la question, c'est toujours la même. Est-ce que séduire les hommes est une marque de pouvoir ou de soumission? Est-ce que les femmes ont le pouvoir en séduisant ou est-ce qu'on sont soumises en essayant de plaire aux hommes? La ligne est très subtile. Je pense qu'à chaque fois, à chaque femme de décider si elle souhaite utiliser ce pouvoir ou pas. Pour moi, le féminisme aujourd'hui, finalement, c'est la liberté d'être qui on veut, de projeter l'image qu'on souhaite. Cette image peut changer. D'ailleurs, hein, certains jours, on veut s'habiller en ado grunge, un autre jour en femme fatale. C'est ça être féministe, je crois, aujourd'hui. Que personne nous dicte comment doit s'habiller, le métier qu'on fait, si on a envie d'être femme au foyer, si on a envie de travailler, si on a envie de s'habiller sexy ou de manière professionnelle. Être féministe aujourd'hui, c'est être libre tout simplement. Il semblerait que Beyoncé et toutes ces icônes féministes aujourd'hui, et toutes les jeunes femmes sexy qui s'affichent comme féministes, pensent qu'elles ont le pouvoir. Et effectivement, je pense qu'elles l'ont à partir du moment où elles décident, elles, de la manière dont elles se présentent et de ce qu'elles font aujourd'hui dans leur vie.
Oui. Alors Beyoncé, le mot est lâché, il a été lâché plusieurs fois. Il y a un moment clé, une date clé, c'était le 24 août 2014. Ce jour-là, la chanteuse américaine, donc ultra star, Beyoncé donne un show pour les MTV Video Music Awards à la 10e minute, en body, en talon. Elle prend la pose devant un écran géant avec le mot féminisme. Qu'est-ce que ça a déclenché, Kevan Javadjazé, comme réaction et comme polémique?
Alors ça a déclenché, peut-être juste pour revenir très rapidement sur est-ce qu'elles sont plus arrogantes que par le passé, ouais. Je pense qu'on peut commencer par dire que plus arrogantes, je sais pas, en tout cas elles se disent féministes, elles, contrairement à beaucoup d'autres qu'on avait tendance à classer comme féministes, je pense à Madonna par exemple, qui ne se disait absolument pas féministe. Donc je pense que la première chose à rappeler, c'est que Beyoncé se dit féministe.
C'est-à-dire, c'était très compliqué, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, de faire dire à des artistes femmes, pas que des artistes américaines d'ailleurs, qu'elles sont féministes. Alors soit elles se pinçaient le nez un petit peu, elles prenaient plein de pincettes pour le dire, ou alors elles prenaient très vite soin de dire « je suis féministe mais j'ai rien contre les hommes ». Ça, ça a changé.
C'est un grand discours qu'on entend très souvent, c'est « je ne suis pas féministe mais ». Et je pense que c'était pour échapper au stigmate de l'artiste féministe qui était, qui suscite énormément de réactions. Et c'est aussi pour ça que j'ai tendance à penser que quand on voit Beyoncé comme utilisant le féminisme à des fins marketing, à des fins d'autopromotion, moi je suis beaucoup plus nuancé parce que si le féminisme était quelque chose qui fait vendre absolument, ça se saurait. Quand Beyoncé se dit féministe...
2013, c'est pas 2019.
Voilà, exactement. Hein. En 2013, quand Beyoncé se dit féministe, Emma Watson n'a pas encore dit qu'elle était féministe. Des stars comme Taylor Swift disent qu'elles ne sont pas féministes parce qu'elles aiment les hommes.
Qu'elles ont peur de perdre.
Et parce qu'elles ont peur aussi, sans doute, de perdre une partie du public. Donc, je pense que c'est loin d'être une stratégie qui est. On a dû lui déconseiller, même, je pense, de se dire féministe à ce moment-là. Mmh. Quand, à plus forte raison, que Beyoncé est une femme noire et que le féminisme est, à l'époque, quelque chose qui est encore très largement associé à un mouvement blanc, bourgeois, et donc pas forcément lié aux aspirations des classes populaires nord-américaines à qui Beyoncé s'adresse dans ses chansons, même si elle s'adresse à un public beaucoup plus large.
Les critiques qui ont été adressées à Beyoncé après ce concert et puis dans les années qui ont suivi, elles ont été quand même assez féroces. Elles émanaient beaucoup de la part de femmes, notamment d'une journaliste, d'une éditorialiste qui avait écrit dans le Guardian « Te faire photographier en sous-vêtements n'est pas la cause des femmes ». Alice Pfeiffer, juger une autre femme sur ce qu'elle fait de son corps, c'est pas précisément la définition du sexisme et ça veut dire qu'il faut tout reprendre depuis le début.
Ah bah si, absolument. On dit qu'une femme, c'est cette vague de féministes à laquelle que vous rappelez aujourd'hui, c'était cette même femme qui disait une femme en string ou en burqa, ça reste une femme objet. Qui a défini qui était l'objet? Quelles sont les intentions de la femme? Si, moi je pense que il faut absolument pouvoir avoir le droit de poser en petite culotte si on a envie de le faire, mais il faut faire attention à qui le fait, comment c'est. Je me souviens de Loudoyon qui avait hurlé sur Nicki Minaj en disant « ma grand-mère s'est battue pour autre chose que le droit de mettre un string ».
J'ai la citation, elle dit « quand je vois Nicki Minaj et Kim Kardashian, je me dis que ma grand-mère a lutté pour autre chose que le droit de porter un string et de se faire taper le cul ».
Ouais, seulement elle posait sur Playboy quelques mois après. Donc il y a aussi, c'est chez la femme noire, c'est autrement plus sexué.
Emma Watson aussi d'ailleurs, qui avait critiqué Beyoncé pour ça et qui s'était fait rattraper derrière sur Twitter parce qu'elle avait aussi posé sur une couverture. Oui. De manière assez sexualisée.
Ça veut dire qu'on pardonne moins à une femme racisée qu'à une femme blanche quand elle.
Je pense qu'elle subit beaucoup plus de couches d'oppression et de lutte comme hyprasexuée, animalisée. Malheureusement, c'est tout le combat intersectionnel qui fait que la femme blanche ne peut plus prendre la parole pour la femme noire aujourd'hui.
Il y a un terme pour ça aux États-Unis, c'est la. C'est la misogynie noire qui.
C'est
un mot valise créé par. Une féministe spécialiste des médias qui s'appelle Moya Bailey, justement pour désigner le fait que les femmes noires sont toujours soumises à un regard différencié et largement raciste.
Y compris par leur père, c'est-à-dire y compris dans la sphère militante féministe.
Bien sûr.
Claire Succaud, ceux qui sont très sceptiques vis-à-vis de la chanteuse Beyoncé, l'accusent de ne pas être féministe mais d'être dans l'empowerment personnel. Qu'est-ce que ça veut dire l'empowerment et quelle est la différence entre le féminisme et ce qu'on appelle en français l'empouvoirment?
Je sais pas s'il y a beaucoup de différences. Je pense que ça dépend à quel niveau on parle. Après, moi je trouve que c'est toujours facile de dire oui, elle est pas ceci, elle est pas cela. Et je pense qu'en attendant, c'est quelqu'un qui fait passer des messages dont on a encore vachement besoin et passer notre temps à dire oui, elle pourrait faire plus ceci, plus cela. Je trouve ça un peu pas intéressant. Enfin, dans le sens où voilà, on a encore plein de combats à mener. On est loin d'être à l'égalité. Il y a encore plein de choses à faire. Elle le fait à sa façon. On peut la critiquer sur certains points, mais en attendant, elle est dans l'action. Et je pense qu'elle fait quand même avancer les choses. Et je pense que c'est ce qui compte le plus.
Claire Borot, est-ce qu'on est dans un clivage générationnel où c'est pas seulement deux manières de penser le féminisme qui s'affrontent, mais deux générations de féministes? Sylvie Borot, pardon.
Oui, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a deux générations qui s'affrontent? Je ne sais pas. Honnêtement,
évoquait un féminisme blanc quasiment poussiéreux. Est-ce qu'il fallait dépoussiérer ce féminisme-là?
Je vous avoue, je ne suis pas du tout une spécialiste du féminisme. Vraiment, je travaille sur le marketing et la manière dont les femmes sont représentées dans la publicité et cette tendance au femvertising. que je vois aujourd'hui quand même, c'est que cette évolution, elle reste quand même positive. Après, la manière dont les femmes sont représentées aujourd'hui, elle est quand même... Je crois, hein, on peut tous entendre là-dessus, elle est quand même plus positive qu'elle l'était par le passé. Est-ce qu'il y a un changement dans la posture féministe? Oui, aujourd'hui, c'est vrai que la figure du féminisme n'est pas la même. Comme je le disais, il y a des femmes aujourd'hui qui vont s'afficher comme féministes, mais en même temps, comme on me disait, il faut que ça reste très sexy, en fait. C'est ce côté... maintenant, le féminisme est sexy et doit être sexy. Voilà. Après, quelle est l'opinion que l'on porte là-dessus?
Kevin Javadzadeh, il fallait révolutionner la manière de militer. C'était pas assez efficace, ce que faisaient les féministes d'avant.
Je pense que c'était très efficace. Il ne s'agit pas du tout de porter un jugement sur ce qui a pu être fait avant et qui continue d'être fait par ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement opposer le féminisme pop de Beyoncé, par exemple, à d'autres formes peut-être plus collectives, plus militantes. Je pense que ça s'articule souvent. Là où Beyoncé me paraît très importante, c'est qu'elle donne des possibilités d'identification pour des jeunes femmes qui peut-être ne seraient pas reconnues dans le féminisme, qui vont avoir envie à travers Beyoncé de s'intéresser à des figures du féminisme africain-américain comme Bell Hooks par exemple, comme Angela Davis et d'autres. À ce titre-là, ça me paraît très intéressant. Il fallait sans doute offrir d'autres visages du féminisme. Ce qu'on met derrière le mot même féminisme, ensuite, reste à débattre.
Est-ce qu'on est, ça c'est peut-être la vraie question, est-ce que tout le monde est d'accord aujourd'hui sur la définition du féminisme? On entend souvent mon féminisme à moi, comme si chacun pouvait avoir le sien, et peut-être après tout, pourquoi pas Alice Pfeiffer, est-ce qu'on pourrait avoir une définition, s'accorder sur une définition du féminisme qui serait quasi universelle et qui rassemblerait toutes les sphères militantes?
Par définition, non. Il y a plusieurs écoles. On peut parler de féminisme pro-sexe d'un côté, qui est un argument qui est souvent utilisé pour des filles qui vont avoir une mise en avant de leur corps, qui est une façon de reprendre l'espace public. Parce que ce qu'on disait sur le sexy, moi, me pose aucun problème. Si c'est des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je pense à la dernière campagne de Meuf, d'ailleurs, où les filles sont toutes en culotte, mais en fait, il y a une telle diversité dans les corps qu'on remarque que finalement, que c'est pas juste une prise de visibilité des énièmes corps qu'on est habitué à avoir tout le temps. Il y a un féminisme intersectionnel qui prend en compte...
Définissez le féminisme
intersectionnel. Le féminisme intersectionnel, le mot intersectionnalité, je crois, a été défini en 91, il me semble, par Kimberly Crenshaw, et spécifie que l'expérience genrée est forcément croisée d'une expérience sociale et raciale. Et donc, on ne peut pas penser le féminisme sans prendre en compte sa blancheur ou pas. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles dimensions qui viennent s'ajouter. Je pense aux questions autour du validisme, par exemple.
Pareil, définissez.
Le validisme,
il faut faire beaucoup de pédagogie sur ces questions-là.
Alors, le validisme, c'est la discrimination des personnes en situation de handicap. De la grossophobie, c'est de la discrimination de personnes grosses. Je pense qu'on s'accorde à se dire que les luttes se croisent, peut-être. Mais il y a énormément de façons encore, même au sein d'un même milieu intersectionnel de regarder la chose. Donc non, on est très loin d'avoir une seule définition.
Sylvie Beraud, les pubs sexistes comportant des messages sexistes rétrogrades, elles ont pour autant pas disparu du tout des écrans télé, des pages de publicité, alors qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui fonctionnent comme une espèce de vigie et que les marques doivent savoir que proposer un contenu sexiste, ça va les exposer à ce qu'on appelle un bad buzz immédiatement. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus jusqu'au bout, on n'est pas au terme de ces publicités sexistes d'antan.
Alors, on n'est pas au terme, mais c'est en train quand même de disparaître, enfin de diminuer. La tendance diminue quand même. Il y a de moins en moins de publicités sexistes rétrogrades. Il y a de nombreuses marques qui ont commencé à communiquer sur leur soi-disant, en tout cas, engagement féministe. Mais c'est souvent en réaction à des campagnes qui ont été jugées sexistes et objectifiant la femme. On se rappelle, par exemple, de Monoprix en 2011, qui avait utilisé une accroche bien lourde sur l'emballage de sa pâte feuilletée. Elle a beau être bien roulée, elle a quand même l'air un peu tarte.
Classe.
Par hasard, la marque a ensuite lancé, pour se rattraper, des t-shirts féministes avec marqué donc liberté masculine.
Donc c'est forcément pour se racheter une conduite. Il n'y a pas d'honnêteté dans la démarche.
Alors, malheureusement,
on n'est pas dans le cerveau des publicitaires, évidemment, mais
voilà. Alors, De ce que j'observe, en tout cas, hein, en tant que prof de marketing, c'est souvent en réaction. H&M, maintenant, on en parle comme la marque féministe. Mais elle a été très critiquée quand elle avait utilisé des corps de mannequins virtuels, tous identiques, comme je l'avais évoqué précédemment. Et donc maintenant, elle a sa campagne She's a Lady, avec des portraits plus réalistes de la femme actuelle, ronde, working girl, musclée, ridée, etc. On verra quand même qu'elles sont toutes très symétriques, très féminines, très jolies. Comme je le disais, on s'écarte mais très de manière frileuse en fait, hein, des stéréotypes de la beauté classique.
Et des t-shirts fabriqués peut-être dans des conditions pas franchement idéales, et notamment sur l'emploi des femmes. Midi 35 sur France Inter. On va écouter Breuvert, Loudoyon, ses oreilles ont un petit peu sifflé.
Brother, where have you gone? See you serious, you have become. Playing martyr and executioner in the name of your absent father, or so you claim. Brother, what have you done? Take a knife and shooting at your sons. Why so threatened by the trivial? Why so cold and literal? Or so it seems. Yes, we need hope. Give us styles and mystery. Cause we need song. Oh, give us dance. We need love and innocence. Brother, against whom these walls? Don't you know that all that rises shall fall? And no bricks shall ever dissuade. See us climb above the barricades once again. Hey sister, where are we heading? We're lonelier than ever. Just look at us trying. This competition is insane. We're all convinced we're losing the game. Or so we're told. Yes, we need hope. Give us times and mystery. Cause we need song. Oh, give us times. We need love and innocence. Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us times and mystery. Cause we need song. Oh, give us times. We need love and innocence. Cause we need fiction. Yes, we need.
Midi 39 sur France Inter, le débat de midi est consacré au féminisme pop.
Le débat de midi, Nadia Dame sur France Inter.
Des réactions, une réaction d'un homme, je crois, Gwendal. Voilà ce qu'il nous écrit. Oui, il y a un conflit générationnel. Les soi-disant féministes récentes ont détourné le sens de ce mot pour diffuser leurs idéologies nauséabondes. Ces assos n'ont rien de féministe, bien au contraire. Une réaction ? Je lis la consternation sur vos visages, mais mettez-le en mots.
Ça paraît de l'antiféminisme.
Oui,
ça paraît juste être de l'antiféminisme assez primaire, de personnes qui pour mieux dénigrer le féminisme contemporain, se réfère à un féminisme que par ailleurs il n'aurait pas soutenu à l'époque.
En gros, le féminisme c'était mieux avant quand c'était porté par le MLF, ce que vous dites.
C'est ça.
Parce que ce que sans, ce que le,
sans,
gens sous-entendent.
Sans soutenir pour autant le MLF à l'époque où j'ai l'impression.
Ouais. Alice Pfeiffer.
Bah tout d'un coup c'est ça, c'est un peu drôle ce regard larmoyant sur un féminisme qui aurait été plus agressif donc rejeté par la société. Aujourd'hui c'est fait de façon tout à fait pédagogique disons et ça va pas non plus. Donc ouais, dans les deux cas on a perdu.
Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement on ne pardonne rien aux féministes, c'est-à-dire que soit il en fait trop, soit il en fait pas assez.
Toujours. C'est sûr. C'est où chaîne de garde.
Il n'y a pas une bonne manière de militer, de faire passer des messages qui mettraient tout le monde d'accord.
Bah, je pense que c'est pas tellement dans l'apparence. C'est-à-dire que c'est très facile de porter un t-shirt marqué féministe, mais ça va beaucoup plus loin que juste porter un t-shirt et soutenir ses copines. Non, je pense qu'il y a comme peut-être un écosystème. En parlant de mode, il y a un écosystème à atteindre. On peut soutenir aussi des femmes à l'autre bout du globe parce que se dire féministe et porter un t-shirt marqué féministe qui a été fait par une gamine de 15 ans au Pakistan, effectivement, c'est de quelle femme on parle, en fait. Donc, c'est pas juste un truc de bande de potes comme on peut le voir détourné souvent, et c'est aussi une pensée plus globale de l'intersection entre les luttes, quoi.
Parmi les marques qui ont été touchées par la grâce féministe, on peut citer Chanel, ça c'était en 2015, défilé printemps-été, la marque a fait défiler ses mannequins, donc, et scandé des slogans féministes. Kevin Javadzadeh, vous avez vu ça? Vous avez pensé quoi quand vous avez vu que Chanel faisait défiler des slogans féministes sur son podium par des femmes, encore une fois, dénutries et pas forcément très représentatives des femmes françaises?
Là, je pense qu'on est dans ce qu'évoquait tout à l'heure l'autre intervenante sur le femvertising, vraiment où là, on se sert du féminisme à des fins marchandes, commerciales, en le vidant complètement de son message. S'il s'agit de vendre une idée du féminisme complètement dépolitisée, on peut s'interroger sur effectivement quel est l'intérêt, ce qui n'est pas la même chose. Enfin, c'est aussi en ça que pour moi le message, je reviens à Beyoncé, mais quand on vend un message inspiré de l'ouvrage de Chimamanda Ngozi Adichie,
écrivaine nigériane,
nous devrions toutes et tous être féministes quand on l'imprime sur un t-shirt à 600 €.
C'est la marque Dior.
Voilà, c'était Dior. Ou quand Beyoncé s'en revendique, le sample, etc. J'ai l'impression que c'est pas exactement la même chose.
Sylvie Brault, vous voulez réagir?
Oui, alors en fait, Chanel, finalement, comme venait de le dire, hein, l'intervenant, s'engouffre dans cette tendance du femvertising. Donc c'est la contraction des mots anglais féminisme et advertising. Excusez-nous, en marketing, en publicité, on a plein d'anglicismes. Donc c'est cette pratique publicitaire qui est utilisée par les marques qui souhaitent porter des messages donc considérés comme féministes. Et alors, il faut savoir que si les marques proposent, alors Chanel, mais aussi H&M, on l'a vu, Monoprix, Disney, etc., si elles portent ce message, c'est parce que les consommateurs en demandent. Ils veulent ce message. C'est pas le marketing qui décide, c'est le consommateur qui a le pouvoir. Le consommateur va acheter les produits.
Ils n'ont pas initié le mouvement, ils le suivent.
Exactement. Le consommateur qui achète, comme je disais, le marketing, c'est un miroir de nos désirs. Donc, le consommateur souhaite aujourd'hui signaler qu'il est féministe. Donc le consommateur qui achète les produits d'une marque qui s'affiche comme féministe souhaite en fait signaler cet engagement féministe, c'est un moyen de s'approprier ses valeurs. Donc comme on le disait, en portant un t-shirt avec à l'effigie de Frida Kahlo par exemple, je signale aux autres et à moi-même que je suis comme elle, féministe, je suis libre, forte, engagée, etc. Donc les consommateurs qui achètent des produits et qui affichent des marques pour renvoyer cette image de soi, c'est un signal. Alors, ils peuvent le renvoyer à eux-mêmes aussi. Hein. C'est un signal qu'on peut envoyer à soi et aux autres. Il est soit honnête ou pas.
C'est pas exactement ce qui se passe avec l'écologie. Allez, encore un mot anglais, mais le greenwashing, c'est-à-dire s'offrir une image positivement acceptée par la société à peu de frais.
Exactement. Et ce signal qu'on va envoyer, je suis écolo ou je suis féministe, il est honnête ou pas. Donc, si je suis vraiment féministe, c'est-à-dire je suis une femme émancipée, libre, forte, ben ce signal que je renvoie, il est honnête. Je vais communiquer mon soi réel, qui je suis. Si je souhaite être féministe, mais je ne le suis pas encore, je suis en devenir, je souhaite devenir féministe. Je vais déjà acheter un produit qui va me dire à moi-même je suis féministe et qui va dire aux autres qui je suis. C'est mon soi idéal, ce que je souhaite atteindre. Et le problème, c'est quand je veux être perçue comme féministe, mais je ne le suis pas vraiment. Je n'adhère pas vraiment à ces valeurs. Je vais acheter un t-shirt Chanel qui dit féministe. C'est mon soi social idéal, c'est-à-dire le soi que je souhaite projeter.
Oui.
Dans ce cas-là, j'achète du féminisme.
C'est l'image
dans
sociale, ce que vous êtes en train de décrire.
C'est l'image sociale, exactement. Donc dans ce cas-là, j'achète du féminisme. Mais là, c'est un faux signal que je renvoie aux autres. On envoie tous des faux signaux tous les jours. Hein. Oui. Du gloss à lèvres qui grossit la taille des lèvres, un soutien-gorge ampliforme, ou comme vous l'avez dit, un produit écolo, mais qui n'est pas vraiment. On envoie toujours des faux signaux.
Alice Pfeiffer, est-ce que ce femme-vertising qui a cours aujourd'hui, ça retire quelque chose à la force politique et au combat politique porté par le féminisme?
Ah bah, moi,
est-ce qu'on perd quelque chose en cours de route?
Jusqu'à récemment, je vous aurais dit oui, absolument. Mais en fait, il y a des impacts qui sont réels, je me souviens.
Lesquels?
Par exemple, quand Dolce Gabbana a publié une campagne qui, pour le marché asiatique, avec une femme, ils ont pris une mannequin japonaise pour une pub chinoise, qui arrive, à qui on sert une pizza, qui sait pas du tout comment le faire, qui donne des coups de baguette dans la pizza, qui sait pas manger des pâtes, etc. La réaction était tellement forte, les filles hurlaient au scandale et parler d'orientalisme et plein de notions qui avaient été familiarisées grâce au féminisme. Bon, le défilé n'a jamais eu lieu, les Dolce Gabbana n'est plus vendu dans les boutiques, c'est boycotté par le Vogue Chine. Donc aujourd'hui, il y a quand même des vases conducteurs entre des messages individuels, la mode et un engagement personnel d'une mannequin.
Claire Succot, cette omniprésence de messages féministes, qu'ils soient honnêtes ou non, ça ne risque pas de conduire in fine à lasser ou à provoquer l'hostilité ou à nourrir l'hostilité des anti-féministes ou de ceux qui ne sont pas encore convaincus par l'utilité de certaines causes féministes? Est-ce que ça risque pas d'être contre-productif finalement? Il y a trop de féminisme, tue le féminisme, pour dire les choses un peu bêtement, mais...
Oui, non, je vois ce que vous voulez dire. Je pense que pour l'instant, on n'en est pas du tout encore à trop, on en est plutôt à pas assez.
Ça a été le cas, pardon, mais une pub Gillette, une pub pour des rasoirs Gillette qui porte un message féministe, ça a été très très mal accueilli par des hommes, mais pas que. Ça a été très mal accueilli, c'est-à-dire le message n'est pas passé.
Oui, je pense que ça dépend qui fait passer le message et comment il le fait passer. Et il y a des façons qui passent pas encore et il y en a qui passent, mais après je pense que il y a encore plein de choses à faire et je suis un peu de l'avis que c'est aussi les consommateurs qui dictent aussi le marketing, c'est-à-dire là par exemple sur tout ce qui va être l'image des corps représentés dans la publicité, on voit de plus en plus, c'est encore assez timide, mais on voit de plus en plus, j'ai quand même vu cet été des pubs de maillots. Bon, les filles font un 38, c'est déjà un petit peu mieux que...
On a progressé, elles ont pris de taille quand même.
C'est bien de faire du 34 3. Aussi, mais je veux dire, on voit des filles avec des corps qui se rapprochent plus de la norme. Je rappelle que la norme, c'est 42 pour une femme française. Et on voit un peu de cellulite qui n'est pas retouchée, un peu de cicatrice, et on peut se dire, ah, super, ils font ça pour surfer. En attendant, je pense que la plupart des femmes qui le voient dans le métro, elles n'ont pas spécialement conscience de ça, et elles voient ça, et elles se disent... Ah ok, donc en fait je peux avoir de la cellulite et c'est hyper...
Est-ce que c'est pas plus efficace précisément ce que vous êtes en train de décrire, de montrer des représentations différentes, des corps différents, de couleurs différentes, de poids différents, que de simplement apposer le logo féministe?
Moi je pense.
Notamment auprès des jeunes, est-ce que ça diffuse pas le message de manière plus efficace?
J'ai l'impression que oui, de toute façon le mot féminisme il a encore plein de définitions et plein de sens différents, il y a plein de gens qui en ont peur. On a beau dire que c'est un mot à la mode, moi je pense pas que ce soit encore totalement à la mode. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui partagent les valeurs, mais qui oseraient
pas
se définir comme féministes. Et qui par contre peuvent complètement comprendre un message où on voit justement différents corps, différentes morphologies. Et donc qui sont des valeurs qui peuvent être féministes. Et là, ils vont complètement y adhérer. Mais si on met le mot féministe, ça va leur faire peur et ça va les effrayer. Quoi.
Kevan Javadzadeh, je dis votre nom lentement parce que je l'écorche 10 fois dans cette émission. 6 filles sur 10 de 15 à 20 ans se disent féministes. Ça veut dire que ça a bougé malgré tout du côté des jeunes générations. Je ne sais pas si on aurait obtenu le même résultat de sondage il y a quelques années.
Non, sans doute pas, puisque encore une fois, si on prend l'espace de la culture populaire, combien de personnes se disaient féministes avant 2013 sur le mot féminisme qui fait peur, en 2000, je sais plus, c'était 2014 ou 2015, le Time le plaçait dans une liste de 100 mots à bannir. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que ce qui a pu contribuer aussi à une plus grande identification comme féministe, c'est à la fois le féminisme pop, certaines figures féministes qui offrent d'autres modèles, peut-être qui apparaissent comme un peu moins exigeants, peut-être parfois un peu moins militants, mais donc aussi plus facilement appropriables, et aussi le rôle des réseaux sociaux numériques, je pense qu'ils sont très importants.
De quelle façon ?
Des espaces de sociabilité, des espaces de partage, des espaces de diffusion de connaissances militantes, etc.
De communautés
émotionnelles qui peuvent se créer aussi autour de ces questions. Il y a un numéro de la revue Réseau qui traite justement du féminisme en ligne et qui montre comment les réseaux sociaux numériques ont permis, notamment par exemple, la constitution de, ou en tout cas ont aidé le féminisme à se développer chez plutôt des jeunes adolescentes, etc. Comment ça a pu aussi jouer dans la formation de l'afroféminisme en France. Donc tout un tas de choses qui, à la fois dans l'espace de la culture populaire, des moyens technologiques aussi qui permettent de diffuser les idées féministes, ou en tout cas le mot même, parce qu'encore une fois, tout dépend de ce qu'on met derrière, mais en tout cas le mot devient plus facilement appropriable.
Donc on se demande aujourd'hui si le féminisme c'était mieux avant. Ça vaut peut-être le coup de se rappeler comment c'était avant.
Vous êtes féministe ?
Je suis pour la femme.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
J'ai besoin de ma femme.
Qu'est-ce que vous pensez du MLF ?
Quoi, le MLF ?
Le mouvement de libération de la femme.
Ah oui. Oui, c'est une bonne chose.
Et qu'est-ce
je
que
suis contre.
Pourquoi ?
Parce que je suis contre. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis contre.
Les femmes n'ont pas besoin d'être libérées.
Non, si, elles sont libres tout en étant au foyer, à mon avis. Hein. Elles doivent rester à la maison. C'est indispensable.
Est-ce que vous êtes féministe, madame ?
Assez, oui, je suis féministe.
Moi aussi.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je vois pas une différence entre un homme et une femme. Pour moi, c'est pareil.
Qu'est-ce que ça veut dire être féministe ?
Être pour la femme, plus que pour l'homme, c'est ça ? C'est-à-dire que l'homme a toujours le dessus sur la femme et que la femme est en dessous. Moi, en ce qui me concerne, non.
C'est pas notre cas.
Alors,
j'ai mon mot à dire.
Vous êtes féministe, ça veut dire quoi, monsieur ?
C'est-à-dire que je suis pour l'égalité des couples. Mais
j'ai
une égalité totale. Chacun donne son opinion, son point de vue, et on est tombé d'accord pour qu'elle puisse élever les enfants tranquillement à la maison.
Ça pique, hein. C'était en 1982. Alice Pfeiffer, est-on sûr aujourd'hui de pas obtenir ce type de résultat si on sortait faire un micro-trottoir dans la rue ? Parce qu'il y a des gens qui sont pas tout à fait convaincus par les campagnes H&M et autres et qui pourraient tenir exactement les mêmes propos que cet homme en 82.
Alors, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose. Je suis pas sûre qu'on ait la liberté de le dire aujourd'hui ou qu'on ait... Je pense que les gens ont extrêmement peur de la culture du trolling qu'il y a sur les réseaux sociaux. Personne n'a envie de se faire attraper, attaquer, de se faire prendre la main dans le sac en train de dire quelque chose de pas politiquement correct. Donc, je pense pas que les mentalités changent. Je pense que l'autocensure est plus forte, tout simplement.
La première question que je vous ai posée, Alice Pfeiffer, c'est si le féminisme était à la mode. Vous m'avez répondu oui.
Oui.
Le propre d'une mode, c'est qu'elle passe.
Ouais, c'est qu'elle se démode.
Ça va passer, le féminisme ?
Je crains bien que oui. Malheureusement, je vois pas comment. Ou il y a des changements structurels beaucoup plus larges qui vont être mis en place, qui vont être qui la mode va être un gentil coup de pouce ou un push de visibilité, mais pas beaucoup plus. De façon générale, j'ai déjà vu des phases comme ça arriver. Je veux dire, en 2014, il y avait tout quelque chose sur les mannequins sans genre, le genderless, le gender neutral, là qui est un peu revenu, mais qui, enfin, c'est
une cause en chasse une autre, c'est ce que vous êtes
en train
de dire.
Une cause en chasse une autre, c'est-à-dire qu'il y a eu, oui, il y a eu vraiment quelque chose sur le genre. Là, on parle plus de métissage aujourd'hui. Je pense que il y a eu des pubs pour les animaux, il y a eu des pubs contre le SIDA qui étaient Marc Jacobs et le ruban rose. Malheureusement, les causes font vivre et sont rejetées avec la même froideur qu'une vulgaire tendance.
Midi 53 sur France Inter. Isia, tiens, encore une femme.
T'as l'impression qu'on t'ignore. quitter la fête avant la fin, claquer la porte avec fracas, on ne s'inquiétera pas pour toi. Tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Sans blague. Tu vas abîmer ton cœur à trop vivre plus fort que tout. Hypersensible et sauvage, dans ta tête comme dans une cage. T'as tellement besoin qu'on t'aime que t'oublies de t'aimer toi-même. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments passés sans suite.
C'était Isia trop vite dans le débat de midi. On approche la fin de l'émission, mais j'ai une dernière question pour mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
C'est la question rituelle du débat de midi. J'aimerais savoir avec quelle personnalité vivante ou disparue vous aimeriez pouvoir débattre, même si on aimerait tous demander à Frida Kahlo ce que ça lui fait de se retrouver sur un tube de fond de teint. Sylvie Borot. Avec qui?
Alors, un personnage très très célèbre est décédé, Freud, et je lui poserai la question de savoir si les mères sont-elles vraiment toujours coupables, et j'aimerais bien discuter avec lui du mal que l'approche psychanalytique a fait dans la prise en charge du handicap des enfants, en particulier de l'autisme en France. Voilà.
Ce serait un débat animé, donc, je suppose.
Oui, ouais. Très animé.
Claire Succo.
Moi, j'ai pas tellement réfléchi à la question, mais au-delà de discuter avec une personnalité, moi, j'aimerais bien aussi avoir des débats justement plus dans la rue avec les gens. C'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le terrain.
Ça s'appelle pas Twitter, ça ?
Non, je crois pas, parce que Twitter, c'est sous couvert un peu d'anonymat, donc je pense pas qu'on dise les mêmes choses que ce qu'on dirait en face. Mais oui, par exemple, discuter avec le monsieur qui a réagi tout à l'heure ou discuter
dans l'archive de 1982.
Non, le monsieur qui a réagi, qui vous a.
Qui a accusé. Rappelez-nous ce qu'il
disait. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit.
Auditeur qui trouvait que les nouvelles féministes dévoyaient le combat.
Exactement.
Kevin Javadzadeh, avec qui est-ce que vous voudriez croiser le fer aujourd'hui?
Croiser le fer, je ne sais pas, mais si c'est n'importe quelle personnalité, pourquoi pas Beyoncé?
Alice Weiper.
Alors moi, Kim Kardashian ou Judith Butler, voilà. Je les aime toutes les deux d'amour.
Ou les deux en même temps, peut-être, ça pourrait être intéressant. Voilà. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. L'émission a été préparée par Anna Massardier, à la réalisation Lucie Lemarchand, à la technique aujourd'hui Paul Percheron et Théo Gomard. Demain, dans le débat de midi, on se demandera ce que notre obsession pour le formica et l'œuf maillot dit de nous. Quoi, c'est pas clair?